Vivre FM podcast.
Je ne sais pas s'il s'est recoiffé, s'il a remis sa mèche depuis vendredi. Comment allez-vous, Alessandro ?
Ça va, ça, c'est pas possible avec cette mèche.
Non, on arrête.
Vous y mettez aussi,
on arrête, promis, on n'en
finira jamais. Hein, si Jason, vous y mettez
non,
aussi.
Mais je
déjà que j'ai Laurent sur le dos, enfin sur la mèche.
Alessandro est très très beau et nous sommes tous jaloux. Voilà, voilà l'histoire de la mèche.
Voilà, tout est dit. Vous faites des jaloux, Alessandro. Alors aujourd'hui, plus sérieusement, vous nous parlez de l'affaire du siècle. Qu'est-ce qui est ? Ça arrive devant la justice française ? Dites-nous tout.
Oui, en 2018, quatre associations se sont réunies pour défendre le climat, notre affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France. Elles ont décidé, au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Pour frapper fort, les quatre ONG avaient lancé une pétition en ligne qui a été soutenue par plus de 2 millions de citoyens. En fin de semaine dernière, 2 ans après le début de la bataille, l'audience du plus gros procès climatique français a démarré.
Alors Alessandro, que reprochent les quatre associations à l'État français ?
Alors, elle reproche à l'État d'avoir commis une faute qui engage sa responsabilité. La France n'emploierait pas toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements sont notamment ceux pris lors des accords de Paris en 2015, qui fixent la limitation de la hausse des températures à 1,5 degré. D'après la rapporteure publique, il y avait bien une faute de l'État à n'avoir pas respecté sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les organisations de l'affaire du siècle ont déclaré, je cite, que si le tribunal suit les conclusions de la rapporteure publique, la responsabilité de l'État dans le dérèglement climatique serait reconnue du fait de l'insuffisance de ses actions. Ce serait une avancée majeure du droit français et une victoire majeure pour le climat et pour la protection de chacun et chacune face aux conséquences du dérèglement climatique.
D'accord, mais Alessandro, est-ce que l'État français est vraiment inactif face au dérèglement climatique ?
Inactif non, la France est tout de même un pays engagé à lutter contre les gaz à effet de serre. D'ailleurs, pour se défendre, l'État s'est principalement appuyé sur la loi énergie-climat de 2019 qui vise la neutralité carbone d'ici 2050 ou une baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030. D'après de récentes études, la France n'est pas dans le top 10 des pires émetteurs de CO2, mais dans le classement des émissions de CO2 par habitant, la France est 10e. Chaque Français émet 5,20 tonnes par an. C'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 4,91. Les plus gros pollueurs, on les connaît, ce sont la Chine, les États-Unis et l'Inde. Les États-Unis qui devraient d'ailleurs rejoindre, d'après les déclarations de Joe Biden, les accords de Paris dès son investiture mercredi, accord qu'avait quitté Donald Trump en 2017, estimant qu'il menaçait des emplois américains.
Mais oui, effectivement. Alessandro, revenons aussi sur le procès. Que risque concrètement l'État français en cas de défaite ?
Alors les audiences se sont déroulées, la décision du tribunal est attendue sous 15 jours, la rapporteure publique a proposé de condamner l'État pour carence fautive, ainsi qu'a versé aux 4 ONG la somme d'1 € symbolique pour la réparation du préjudice moral causé, mais en lui-même, l'État ne risque pas grand-chose. Cela aura un impact médiatique et peut-être un impact politique si la justice instaure une obligation d'agir. Sur Vivre FM, on vous tiendra évidemment au courant des résultats de ce procès.
Ok, bah écoutez, tout est clair, Alessandro, on vous remercie. On vous retrouve dans une heure sur Vivre FM.